Ça va? On entend? Vous m'entendez? Bien, alors bienvenue à toutes et tous. On va donc faire une promenade sur les traces de la même, enfin, du contre-pouvoir et de la mémoire ouvrière. Plus fort? Oui? Comment ça? Non, oui, tu mets plus fort.
Tu parles plus fort.
Bon, alors je parle plus fort. On va le faire à deux voix. Georges Tissot, qui est à côté de moi, qui est un syndicaliste retraité qui, même avant sa retraite, s'est toujours intéressé à la question de la mémoire ouvrière. Et puis moi, qui suis historien, à l'origine historien du mouvement ouvrier, actuellement enseignant à l'université où je forme des profs d'histoire du primaire et du secondaire. On est dans un... Je vous dois une explication préalable sous deux aspects. Le premier, c'est que le thème des Journées du patrimoine de cette année, c'est les traces du pouvoir. Nous, on va faire des... Enfin, je ne sais pas si on va... On sera un petit peu à contre-pied. On va essayer de chercher les traces du de forme de contre-pouvoir. Sauf qu'en général, le contre-pouvoir, ils ont de la peine à laisser des traces. Et donc, il y aura des étapes où on devra imaginer les traces qu'il y aurait pu y avoir, qui auraient pu être laissées, mais qui ont disparu, ce qui n'a pas pour autant fait disparaître les événements historiques en question. Et puis, on va voir des monuments, et ces monuments sont d'une autre nature, c'est-à-dire que ce sont des objets par lesquels les contre-pouvoirs ont tenté d'imposer, de faire valoir leur propre histoire. Je vais beaucoup insister sur le fait que cette présence-là de forme de contre-pouvoir en termes de monuments, ça s'est pas tombé du ciel et ça a été vraiment le résultat de luttes citoyennes, associatives, politiques, syndicales ou autres, enfin, extrêmement marquantes. Alors, comme on n'est pas à un paradoxe près, on vous expliquera ensuite pourquoi on commence avec Georges Favon. Ce que j'aimerais quand même dire très très vite, c'est que on parle d'histoire ouvrière, de traces du mouvement ouvrier. Je vais juste préciser que d'abord, ce mouvement ouvrier, il faut le considérer, en tout cas pour les traces dans l'espace que nous allons traverser ici, sur une temporalité qui part au milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce que moi j'appelle le mouvement ouvrier, c'est quelque chose de compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a plusieurs courants. Il y a des courants qui se reforment ou qui se transforment au cours de l'histoire. Et puis je dirais, il faut avoir en tête ce que j'appelle la trilogie ouvrière. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier s'est fait à la fois de partis politiques qui essayent d'élire des députés qui vont agir sur la législation, ou qui essayent d'élire des magistrats qui vont participer, en Suisse ça sera seulement participer dans la plupart des cas à l'exercice du pouvoir. Il y a deuxième élément de la trilogie, des syndicats, et dans les syndicats il y a deux points de vue. Je vais vraiment à la louche, et très vite, mais parmi les acteurs et actrices des syndicats, il y en a qui s'engagent aux côtés des partis et essayent de jouer à la fois sur la dimension législative et la dimension syndicale, mais il y en a aussi, et particulièrement au tournant des 19e et 20e siècles, qui considèrent que la seule vraie lutte, c'est celle qui se passe sur le lieu de travail, pour le tarif, pour la défense des conditions de travail, avec la perspective de la grève générale comme seul moyen ou comme moyen essentiel de faire changer la société. C'est l'anarcho-syndicalisme, mais je veux dire, cette tension entre est-ce qu'il faut aller davantage essayer de faire des lois avec toutes les temporalités longues que ça implique, ou est-ce qu'il faut aller sur le lieu de travail se battre sur le terrain du travail pour arracher des concessions au patronat. C'est une tension qui survit sous d'autres formes aujourd'hui. Et puis le troisième élément de la trilogie, alors il est très différent, c'est-à-dire qu'à l'époque qu'on va voir aujourd'hui, il faut penser, il faut penser à la notion de coopération, c'est-à-dire que très souvent, le monde ouvrier, il s'est organisé pour notamment avoir accès à des biens de consommation importants, à moindre prix, avec moins d'intermédiaires. Donc ça, ce sont les coopératives de consommation. Mais il y a des coopératives de production. Il y en a des très importantes ailleurs qu'à Genève. À Genève, c'est un mouvement qui a eu lieu surtout dans le domaine du bâtiment. Il y a des petites expériences. J'évoquais hier une coopérative d'anarchistes, de coiffeurs, dans la descente de Saint-Gervais, enfin en dessous de la salle du Faubourg actuelle. Elle a laissé très très peu de traces, on en sait très peu de choses, mais bon, je sais qu'elle a existé. En parenthèse, ce que je sais de cette époque-là et de ce monde-là, au tournant avant 1914, on le doit à l'obligation légale que la bourgeoisie avait mis en place à l'époque, c'est-à-dire que tout imprimé issu du mouvement ouvrier devait être déposé aux archives d'État. Bon, ben, sans cette obligation qui n'était pas très... Enfin, c'était une procédure de surveillance, hein, évidemment. Ça n'avait rien de bienveillant à l'égard du mouvement ouvrier, mais sans cette obligation, paradoxalement, on aurait perdu tout un pan de l'histoire, parce que les archives des organisations ouvrières d'avant 14 sont très largement été dispersées, ont très largement disparu. Dernier point, j'aimerais faire aussi une distinction dans nos réflexions, ne jamais oublier qu'il y a le mouvement ouvrier, et le mouvement ouvrier, ce sont des porte-paroles, ce sont des structures qui sont organisées, mais n'oublions pas, vous verrez qu'il y a une étape où j'aurai l'occasion d'en parler, qu'il y a aussi le monde ouvrier, et que le monde ouvrier qui n'a pas de porte-parole, qui n'a pas pris la parole, qui n'a pas laissé de traces, il est essentiel pour notre connaissance de l'histoire sociale, mais on a une immense difficulté à le faire vivre dans notre reconstruction d'une intelligibilité du passé, et c'est un vrai problème pour l'histoire sociale. J'y reviendrai dans l'endroit le plus mystérieux et qui laisse le moins de traces des étapes que nous allons faire. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à Georges Tissot pour démarrer vraiment à partir de Georges Faron. Je dis juste que, encore une chose, c'est que d'abord, ce projet, c'est proposition qu'on vous fait ici, elle est faite en association avec deux structures en Suisse romande et à Genève qui s'occupent de l'histoire du mouvement ouvrier. L'association pour l'étude de l'histoire du mouvement ouvrier d'une part, le collège du travail d'autre part, on vous donnera des papiers d'information à la fin de la promenade. Et puis j'aimerais dire aussi que ce projet, c'est une partie, c'est une partie d'une promenade qui aurait pu être beaucoup plus longue, mais qu'on n'aurait pas pu faire trois fois dans le week-end. Parce qu'en fait, une version plus longue nous ferait partir du cimetière de Saint-Georges, et donc vers le bois de la Bâtie, où il y a un certain nombre de tombes particulièrement emblématiques du monde ouvrier. Donc, si ceux que ça intéresse, je pourrais leur dire à la fin de la promenade qu'est-ce qu'il faut aller voir à Saint-Georges pour compléter ce qu'on va faire ici. Voilà.
Merci. Celles et ceux que ça intéresse, il y a aussi un article dans le journal Passé Simple, la revue d'histoire qui donne les tombes, et je crois même leur emplacement, je ne suis pas très sûr. Alors, on commence, c'est bizarre, parce que c'est les mouvements ouvriers, puis on est devant Georges Favron, un homme d'État et conseiller d'État radical, qui est mort en 1902, je crois qu'il était en fonction. Alors, on peut se dire, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre sur cette statue, c'est l'inscription qu'il y a dessous, qui est « Pas de progrès sans justice sociale ». On se dit, ça ne va pas très bien avec le Parti radical, enfin, quoique. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, le Parti radical n'était pas celui qu'il était maintenant, et que notamment, les socialistes, ils n'avaient pas un réel parti à l'époque, et ils devaient se présenter sur les listes radicales pour pouvoir être élus, parce qu'il n'y avait pas la proportionnelle au Grand Conseil. Et Georges Favon, lui, était un homme de gauche, même des fois d'extrême gauche, d'après les discours qu'il a faits. Et c'est lui qui a fait le tout premier discours du 1er mai à Genève en 1890. Donc c'était le 1er mai international, le premier. C'est lui qui a fait le discours, je crois qu'il l'a fait aussi en 1891. Et puis c'est lui qui a créé les tribunaux de prud'homme à Genève, donc la justice du travail. Et je vais vous lire juste deux citations de Georges Favon dans son journal Le Jeune Voix. C'était le journal du Parti radical, dont il était rédacteur en chef. Et c'est intéressant d'entendre ce que Georges Favon disait. Il y en a encore beaucoup d'autres comme ça, mais juste ces deux-là. Les journaux adverses agitent à l'envi le spectre du socialisme. Nous l'avons dit souvent, ce n'est qu'en mots. À l'heure actuelle, tout citoyen de cœur, droit et d'esprit clairvoyant est socialiste et comprend qu'il faut modifier, pour éviter des catastrophes et par esprit de justice, la répartition trop inégale des avantages sociaux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas très radical ni libéral non plus. Et puis la deuxième, qui parle là des ouvriers, tant que l'employé ne sera pas placé dans des conditions qui lui permettent de discuter librement son salaire avec son employeur, tant que l'ouvrier ne pourra pas se défendre contre les exigences abusives ou dangereuses de son patron, tant que le moindre accident mettra le pauvre à la merci de la charité du riche, la plus grande partie des hommes vivront dans la dépendance et ne connaîtront guère la liberté que de nom. Ils n'en jouiront en tout cas que par bouffée les jours d'élection et encore. L'État seul peut créer des lois et des institutions qui mettent le faible à l'abri de la tyrannie du fort. Voilà pourquoi nous sommes étatistes, par amour de la liberté vraie. Encore une citation qui... Alors, on est ici, devant Georges Favon, on verra sa tombe plus tard, qui est monumentale, au cimetière des Rois. Mais on est aussi à un endroit où il y a trois bâtiments qui sont un peu liés à l'histoire du mouvement ouvrier, même s'ils sont maintenant, ils n'ont plus rien à voir, ou quasiment plus. On ne le voit pas, vous savez qu'il y a le Victoria Hall là-bas derrière, la grande maison rouge. Le Victoria Hall, c'était... C'est un peu un temple de la culture bourgeoise, avec l'opéra, etc. Mais il y a eu aussi des fêtes du 1er mai qui avaient lieu ici, avec les discours notamment de Charles Rosselet dans les années 20 ou 30. Et surtout, alors au Victoria Hall, il y a eu en 1902, il y a eu quatre conférences de Jean Jaurès, le dirigeant socialiste français, qui a été assassiné juste avant la guerre de 14, à laquelle il s'opposait. Et d'après le journal de Genève, avait fait un compte-rendu merveilleux de ses conférences. Il était vraiment très objectif. Il disait son point de vue, mais il rendait compte de la conférence. Et d'après le journal de Genève de février 1902, le Victoria Hall, donc, qui comptait près de 2000 places, aurait pu être rempli une seconde fois avec la foule qui en débordait hier soir. Donc quatre soirs de suite, il y avait deux fois plus de personnes que la salle ne pouvait en accueillir. Imaginez-vous maintenant, surtout que Genève à l'époque n'avait pas autant d'habitants qu'aujourd'hui. Deuxième bâtiment, alors lui qui a changé totalement de destination, c'est celui que vous avez derrière vous, l'église catholique romaine du Sacré-Cœur, ou Saint-Germain, mais Sacré-Cœur. Alors James Fazi, conseiller d'État dans les années 40, a fait démolir les fortifications, enfin, c'est pas lui tout seul, mais disons, c'était sous son impulsion. L'État a décidé de donner des concessions à plusieurs courants de pensée sur les fortifications. Et c'est intéressant de voir que si on part de la gare, ou plutôt de la gare, j'en ai oublié une hier soir, on part de la gare, il y a l'église Notre-Dame, qui est maintenant une basilique, donc qui a été donnée aux catholiques. Il y a la synagogue qui est juste ici, juste là derrière. Ça, j'y reviendrai. On a là-bas, beaucoup plus loin, dans le quartier des philosophes, on peut parler des philosophes, mais l'église russe, orthodoxe russe, avec les bulbes dorés. Et puis, il y a aussi, à la rue du Mont-Blanc, l'église anglicane. Et puis, ça, comme la forme l'indique un peu, il n'y avait pas la croix au début, c'était un temple franc-maçon, le temple unique, qui a été édifié par les francs-maçons. Mais les francs-maçons se sont vite, semble-t-il, même si le temple était unique, ils se sont vite désagrégés. Il y a eu d'autres temples qui ont été construits pas loin. Et c'est devenu après une brasserie, le siège des Amis de l'Instruction, mais aussi, et c'est là qu'on rejoint le mouvement ouvrier, ça a été le siège de la section genevoise de la Première Internationale Ouvrière, qui avait été fondée en 1864 et dont le premier congrès a eu lieu en 1866 à Genève. Et on a des images, enfin on a surtout une image d'une séance à l'intérieur de ce temple unique, je ne sais pas comment, oui, il l'appelait le temple unique encore à l'époque. Donc le secrétariat de l'international, ça n'a pas duré très longtemps, ils ont eu d'autres secrétariats. Et puis dernier bâtiment, c'est la petite maison un peu rose qui est là, où il y a en bas un boulanger bien connu. qui était à l'époque, qui a été d'abord en théâtre, et puis qui a ensuite été la brasserie Handwerk. Et dans cette brasserie Handwerk, c'était un lieu de réunion, de meeting, et il y a eu notamment, comme dans beaucoup de bistrots du quartier, Lénine, semble-t-il, y a bu des verres, il y a eu un meeting sur la Commune de Paris, il y a eu un meeting avec Louise Michel, donc la proscrite de la Commune de Paris en 1902. Il y a eu un meeting avec Mussolini, qui était à l'extrême gauche à l'époque, c'était juste avant de se faire expulser de Suisse en 1904. Et puis il y a eu aussi là-dedans et dans d'autres endroits, dans d'autres bistrots du quartier, les premières conférences de l'Université ouvrière de Genève qui avait été, c'était, elle n'était pas tout à fait créée, c'était les prémices de l'Université ouvrière de Genève. Alors voilà des lieux qui sont anodins aujourd'hui, mais qui effectivement ont quelque chose à voir avec le mouvement ouvrier.
Deux petits compléments avant de partir. Il y a là, ici, à la rue des Savoises, a longtemps vécu Luigi Bertoni, un anarchiste qui a fait vivre un journal dont la longévité a été un record à l'échelle européenne, puisqu'il a traversé les deux guerres, qui n'a jamais été interrompu. Il a été publié en deux langues, en français et en italien. Il a sa tombe à Saint-Georges. Si on va à Saint-Georges, on va voir sa tombe. Mais je vous en dis deux mots ici parce que, en fait, quand on connaît un peu l'histoire de l'anarcho-syndicalisme et du mouvement ouvrier en Suisse, ce lieu, la rue des Savoises, il est un peu hanté par la présence de Bertoni, mais sauf que on n'en a aucune trace, c'est que pour que ça hante, il faut encore le savoir. Alors je voulais vous en toucher un mot. Et puis, avant de partir, je reviendrai juste sur pas de progrès sans justice sociale. La plupart, il y aura une exception notable, vous verrez, mais la plupart des monuments du mouvement ouvrier que nous allons voir sont caractérisés par une euphémisation des inscriptions qu'ils portent. Je vous donne un exemple le plus caricatural. Si vous allez aux Acacias, près du garage Citroën, il y a une rue qui est dédiée à Adrien Vis, qui est un personnage, un des premiers conseillers. Adrien Vis, qui est l'un des premiers députés socialistes genevois, qui a fondé une maison du peuple dont on reparlera, qui est un personnage important. C'était un médecin, c'était un socialiste, il s'est battu pour plein de choses, y compris d'ailleurs défendu Mussolini lorsqu'il a été expulsé. Mussolini, qui était à l'époque très engagé à gauche, ne l'oubliez pas. Quand vous allez à cette rue, bon, la principale adresse, malheureusement, c'est Rolex. Déjà, au niveau symbolique, c'est pas terrible. Mais en plus, c'est marqué Adrien Vis, il y a l'année de naissance, l'année de décès, et puis c'est marqué philanthrope. Et on n'en sait pas plus. Et je trouve ça très significatif. Voilà. Et donc, à Georges Favon, on n'a pas euphémisé. Puis c'est juste, et ça ne me pose aucun problème. Mais lui, en tant que figure de la bourgeoisie progressiste, dans le progressisme, mais parfois oublié, on y reviendra aussi, eh bien, il a eu droit à une inscription qui dit bien ce qu'il y avait à dire et qui n'essaie pas de noyer le poisson. Voilà.
On va marcher, donc on va aller maintenant au cimetière des Rois. Ils vont nous ouvrir le passage, les copains de la protection civile, sous la garde desquels on est.